Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International en ce début de semaine et avec toujours beaucoup d'actualités en ce qui concerne le football. Et nous commencerons par le Oroya de Conakry. En demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine, une grande première pour le champion en titre de Guinée. Les hommes de Lamine Ndiaye retrouveront les Égyptiens de Pyramide. Gros plan sur ce club d'Antonio Souaré, de plus en plus régulier en compétition continentale. Alors que le TP Mazembe a sombré, éliminé de la Ligue des Champions d'Afrique. Une défaite qui secoue le club et les supporters des Corbeaux. Pour le président Moïse Katumbi, ce n'est pas encore trop grave. À noter, le quasi-monopole des clubs marocains et égyptiens. Ils sont 7 des 8 demi-finalistes de ces coupes africaines. Le coronavirus, adversaire des grands événements sportifs et des matchs de football, PSG Dortmund se jouera à huis clos. Le deuxième match des huitièmes de finale à se disputer sans public pour l'instant. Quelles conséquences pour le Paris Saint-Germain ? En Ligue 1, un bien mauvais week-end pour les Olympiens. L'Olympique lyonnais battu par le LOSC voit l'Europe s'éloigner alors que Lille et Rennes s'enracinent en haut de classement. Et l'Olympique de Marseille a arraché un résultat nul incompréhensible au Vélodrome alors que le club est sous la menace de sanctions de l'UEFA, n'est-ce pas Antoine Moati, bonjour.
Étienne, c'est encore mieux, mais je suis tout à fait d'accord.
Excusez-moi.
Cas, le lancement, à part ça, le lancement est absolument parfait.
Étienne Moati, notre confrère de l'équipe, vous nous expliquiez que Marseille était sous le coup de sanctions et on y reviendra dans cette émission grâce à vous. Pour évoquer notamment ce sujet mais aussi les matchs africains, Patrick Juillard est là. Bonjour Patrick.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Du site Foot 365 Afrique et puis notre ami Franck Simon, passionné d'Afrique de France Football. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis Thomas de Saint-Léger bien sûr. Bonjour Thomas.
Bonjour Annie, bonjour tout le
Il
monde.
Il en revient de l'Afrique, Thomas de Saint-Léger. À Radio Foot, c'est parti. L'hommage de la Guinée à ses jeunes enfants footballeurs. Le pays respecte aujourd'hui une journée de deuil national à la mémoire des 14 victimes de récents accidents de la route, dont 9 membres de l'Étoile de Guinée, club de deuxième division, appartement à l'ancien Stéphanois et international avec le Sili Pascal Feindouno. Il y a eu aussi une vingtaine de blessés dans ce tragique accident parmi les membres de ce club, l'Étoile de Guinée. Alors des faits qui se répètent, le 31 décembre dernier, déjà 2 joueurs étaient décédés dans un accident de bus. C'était le bus du Vakria de Boké. Toutes nos pensées donc aux victimes et à leurs proches aujourd'hui. Et répétons-le, prudence au volant dans un pays où le mauvais état des routes et la vétusté des véhicules font beaucoup trop de morts. Mais hier à Conakry, tout en rendant hommage à ces disparus, eh bien le ballon a roulé et réchauffé le cœur de certains supporters. Une nette victoire du club guinéen Oroya, le HAC de Conakry contre le Nigérian Enyimba. Les Guinéens l'ont emporté donc par 2-0 pour se hisser pour la première fois dans cette compétition au stade des demi-finales. Qualification espérée et méritée selon l'entraîneur du Oroya, Lamine Ndiaye.
C'est mérité largement parce que je pense qu'on aurait pu même mettre encore un ou deux buts de plus. Bon, ceci dit, on va se contenter du 2-0, de la victoire. De toute façon, de la victoire, on était qualifiés. Je pense qu'au match aller, on doit revenir avec la victoire. Bon, on ne l'a pas fait, mais aujourd'hui, ils l'ont fait de fort belle manière, même si encore on a gaspillé quelques occasions. Je pense qu'à force de travail, peut-être qu'on va y réussir un jour.
Franck Simon, est-ce que c'était largement mérité cette victoire, comme le dit Lamine Ndiaye ?
Oui, largement, même s'ils ont eu 10 premières minutes un peu compliquées. Et par la suite, ils ont multiplié les occasions. On a, On a vu une équipe qui était très disciplinée, une équipe qui savait exactement quoi faire. C'est vrai que ils avaient été vraiment intéressants au match aller déjà à Aba où ils étaient ils menés. Avaient, ils avaient été menés assez vite dans le match. Ils étaient revenus au score en fait grâce à leur remplaçant Boniface Aba qui était titularisé hier après-midi. L'attaquant de Oroya. Et hier, j'ai eu le sentiment d'une équipe qui maîtrisait vraiment bien son.
Oui,
et
puis ils avaient ramené le nul, donc c'était déjà un bon résultat.
Oui, voilà. Bon, ils auraient pu se contenter d'un nul 0-0 à la maison, mais dans ces cas-là, on joue pas trop avec le feu. Et ils ont eu beaucoup d'occasions. Lamine Dia, il l'a dit, si ça finit à 3-4-5-0, franchement, il y a rien à redire. C'est une belle démonstration collective. Et je pense que c'est peut-être le début tant attendu pour ce club qui a buté plusieurs fois sur la marge des quarts de finale.
On va y venir. Patrick, sur l'ensemble du match, vous aussi, vous pensez que...
Je partage totalement. La domination était vraiment écrasante. Le premier but qui est superbe, c'est une frappe enroulée vraiment qui est très pure de Bolaji Sakin, a donné le ton du match. Et c'est
ancien
un symbole.
Joueur en plus,
voilà,
du
ancien joueur d'Enyimba, nigérian, et ça symbolise un petit peu la réussite du Oroya qui s'est un petit peu calqué de ce point de vue-là sur ce qu'avait fait le TP Mazembe.
On va y venir.
En recrutant beaucoup de joueurs zambiens, tanzaniens, donc de sa zone un petit peu géographique, le Oroya a un recrutement un peu régional. Il prend des joueurs burkinabés, il prend des joueurs nigérians. Ça aide beaucoup cette équipe dans ces moments-là. Il y a beaucoup d'expérience accumulée.
Aristide Bansé, on le sait, joue dans ce club de Oroya, mais il n'est rentré qu'en fin de partie.
Oui, c'est un bon Aristide Bansé. Je crois que c'est son 19e ou 20e club dans sa
oui,
carrière.
Mais il est là.
Il est toujours là.
C'est un symbole.
Voilà, c'est un symbole. Et puis, s'il y a bien un joueur expérimenté dans cet effectif, c'est bien lui. Alors, son expérience est principalement européenne quand même, mais c'est un joueur qui sait voyager.
Alors, justement, Patrick l'évoquait, Thomas, et on pensait effectivement s'arrêter là-dessus. C'est certes une première pour cette équipe que d'atteindre le stade des demi-finales. En l'occurrence là de la Coupe de la Confédération, mais ce club qui a déjà été sacré 16 fois champion de Guinée, s'installe dans les compétitions continentales.
C'est ça qui est intéressant hein, sur ces dernières années. Alors c'est un club qui a remporté une compétition qui a disparu, la Coupe d'Afrique des vainqueurs de
ça
Coupe en 1978, donc il y a plus de 40 ans. Mais c'est vrai que ces 2-3 dernières années, c'est un club qui s'installe, on va dire, dans un top 10 africain, on peut le dire comme ça. En 2018, il y a eu la qualification historique pour les phases de groupe de la Ligue des Champions, puis le parcours jusqu'en quart de finale de cette C1. Rebelote l'année dernière, quart de finale de C1, et puis donc cette demi-finale en Coupe de la Confédération aujourd'hui, même s'ils ont été éliminés un peu plus tôt en Ligue des Champions, sans avoir perdu, il faut le signaler, depuis qu'ils ont été reversés dans cette Coupe de la Confédération. Donc c'est un club qui s'installe dans un top 8-10 africain. Et puis en Afrique de l'Ouest, pour l'instant, c'est peut-être même le numéro 1. Je pense qu'on peut le dire sans trop y trouver à redire.
Franck, vous êtes d'accord avec ça? On va s'habituer à ce que ce club soit là et on fera un peu le parallèle peut-être avec le TP Mazembe qu'on avait pris aussi l'habitude de voir, peut-être avec des politiques ou des envies similaires.
Oui, on peut faire le parallèle avec Mazembe. Déjà, c'est bien de rappeler qu'ils étaient en Ligue des Champions. Ils ont commencé en Ligue des Champions en tant que champions de Guinée. Ils ont été reversés dans la compétition parce qu'ils sont sortis au tir au but par la JS Kabylie. Ils gagnent 2-0 à la maison. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Au passage, 7 matchs à domicile depuis leur entrée en août dernier et 7 victoires. Lamine Diaye, qui est arrivé au mois de novembre, pareil, il est invaincu en fait dans cette compétition de la coupe de la confédération, et c'est un club qui effectivement si on les avait pas vus briller en fait cette saison, je me serais dit peut-être qu'ils risquaient de disparaître. Ils ont essayé, ils se sont donné beaucoup de moyens, il y a eu beaucoup d'argent de dépensé pour essayer de faire une belle équipe, ce que disait Patrick, hein. Et puis à l'arrivée ils échouent face à plus fort, plus gros qu'eux. C'était je crois le Wydad l'année passée, l'année 2 ans en arrière c'était le Ahly du Caire avec une gifle magistrale en Égypte. Ils se sont pas arrêtés à ça, ils ont insisté, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ils se sont dit peut-être qu'on va pas y arriver là, c'est dans les deux prochaines fois, mais on continue, on essaye de bâtir, sachant que là, on parle de l'actualité de ce club, mais il y a encore plein de choses qui se préparent derrière. On est peut-être parti pour les voir effectivement s'installer, non plus comme le gros club d'Afrique de l'Ouest, mais un gros club continental, tout simplement.
Il y a peut-être un petit bémol quand même, c'est qu'il y a une certaine instabilité sur le banc de touche de ce club. Vous l'avez dit, Franck. Donc
mais c'est le cas dans tous les autres clubs. Hein.
Oui,
Ehli, Wydad, Raja, Zamalek. C'est le cas partout ailleurs.
Donc c'est,
mais
dans c'est un la club qui se construit
à divers degrés, quand même.
Oui, à divers degrés.
Franck, ça veut dire quoi que c'est ça? Pour gagner, il faut changer d'entraîneur tout le temps?
C'est absolument pas ce que j'ai dit. C'était juste pour contredire Thomas.
Évidemment, je vous provoque.
Moi, je nuance un peu quand même, parce que sur cette saison, c'est vrai qu'il y a eu d'abord, c'était Didier Darrossa, je crois.
Didier Gomez Darrossa, mais qui était déjà là de la saison d'avant.
Voilà. Mais il y a eu une longue période avec Victor Zvinka.
Ouais, il y a eu 3 ans.
Qui a construit quand même quelque chose.
Alors c'était lui le premier bâtisseur, tout
voilà,
à fait.
Voilà, c'est ça. C'est lui qui était un petit peu au départ de ce projet. Donc je pense quand même que c'est pas un club pathologiquement instable comme peut l'être le Wydad Casablanca ces derniers mois, quoi.
Et je rajoute, à mon avis, quand on veut s'installer. Il y
avait Patrice Neveu,
le passage de Patrice.
Quand on veut s'installer dans un gratin continental, il faut peut-être justement de la stabilité. Ce qui, depuis quelques mois, n'est pas le cas. Même si là, Lamine Diaye, a priori, fait du bon travail. En plus, c'est un entraîneur qui a du pédigré. Je pense qu'il y a pas mal de nos éditeurs qui le connaissent.
Oui, sénégalais.
Ouais, il a gagné la Ligue des Champions d'ailleurs, lui, avec le club tout puissant Mazembe.
Ouais, il était finaliste de la Coupe du Monde des clubs.
Aussi, exactement.
Ouais. Exactement. Patrick aussi, ce qu'on peut dire. Alors tout à l'heure, vous en parliez de cet effectif, et on pense au TP Mazembe parce que on y viendra tout à l'heure d'ailleurs au TP Mazembe. Mais on se souvient le désir et ce qu'a bâti depuis plusieurs années le président Katumbi, c'était ça, c'était d'investir beaucoup pour donner un pôle d'excellence finalement en Afrique à des joueurs. Et là, ça veut dire que du continent, ça veut dire qu'il y en aurait peut-être deux des pôles d'excellence.
Oh oui, si c'est pas davantage, puisque on a vu. En fait, c'est un club qui mixe.
Le budget était de 5 millions de dollars en 2016, ce qui est quand même
beaucoup pour le continent, absolument.
Un certain Antonio Soufiane Souare, qui est le businessman,
qui est un peu l'homme fort du football guinéen.
Voilà, à la tête de cette équipe.
En général, et pas uniquement du Roya, mais effectivement, oui, c'est un peu. Le mécénat de soirée qui a permis le développement de ce projet. Le recrutement régional dont je parlais, oui, c'est important, mais il y a aussi, ça marche sur deux jambes, il y a quand même aussi de la détection de talents locaux, un peu comme ce que fait, bon, avec plus d'ancienneté et donc plus de résultats, puisqu'il faut du temps, Mazembe avec la KFA.
Qui a son centre de formation et tout.
Et Don Bosco.
Don Bosco, oui, qui appartient à Madame Katumbi, en fait, dont elle est la dirigeante, ouais, quoi. Oui, mais c'est vrai, hein. Donc c'est un club qui reste dans la famille, comme on dit, hein. Voilà, donc c'est un modèle. Je pense qu'il y a un deuxième modèle, quand même, en Afrique de l'Ouest, c'est le modèle des académies qui ensuite lance un club. C'est-à-dire, on a vu avec Salitas au Burkina Faso, on l'a vu avec Génération Foot.
Le Racing d'Abidjan.
Au départ, c'était des académies juste d'un centre de formation. Et ensuite, c'est devenu petit à petit comme du blé qui lève un petit peu, on fait éclore des talents et on monte un club.
L'inverse.
Voilà, le Oroya, le club préexistait à la formation, mais voilà. Je pense Soiré a compris qu'on peut pas faire que du recrutement et du, ce qu'on appelle en Europe du trading, il faut aussi former, et c'est comme ça qu'on aura une équipe complète et qui restera également, il faut pas perdre le côté local auquel les supporters sont très attachés. Si on construit une équipe uniquement avec des joueurs achetés de manière artificielle, bon, c'est le modèle de Pyramids en Égypte, je suis pas certain que ça fonctionne vraiment pour être un vrai club populaire et fort localement.
En tout cas, c'est justement ce club de Pyramide en Égypte contre lequel iront jouer ces joueurs, ce club du Oroya en demi-finale. Ce sera le 3 mai prochain et le retour sera au stade du 28 septembre. Donc, ça risque d'être une belle fête.
Ils sont invaincus.
Ouais, 10 mai prochain. Suspense, hein, parce qu'il y a du temps là, pour se préparer.
Ils ont un lourd calendrier. Oui. C'est la difficulté. Alors,
ils sont en tête pour l'instant.
Ils sont en tête, mais assez
disputé.
Ouais, c'est très disputé. Puis, honnêtement, ils ne se baladent pas en championnat. C'est plus accroché qu'il n'y paraît. Peut-être ajouter à ce qu'on vient de dire, parce qu'on a évoqué la famille Souaré. Aujourd'hui, le président Souaré qui est en poste, c'est pas Mamadou Antonio, c'est bien Sofiane, son fils, puisque son père est président de la fédération et de la ligue, etc., etc. Donc, même si le patron, c'est Antonio, mais celui qui gère les affaires courantes, c'est bien son fils Sofiane. Ils étaient présents tous les deux hier.
Oui.
On a vu aussi Didier Six qui était présent et on a vu Jean Tigana qui est conseiller du père et donc du Oroya.
Sélectionneur. Donc voilà pour ce qui est. Et puis l'autre demi-finale, eh bien, opposera. Alors là, on aura un club marocain forcément
obligé
en finale, puisque il s'agit de Berkane qui jouera contre Lasagna Agadir. Donc nous reviendrons en temps et honneur sur ces demi-finales. En Ligue des Champions, toujours d'Afrique, l'aventure, eh bien, s'arrête là pour les Corbeaux du TP Mazembe. Ils ont certes remporté le match à domicile 1-0 face au Raja Casablanca, mais insuffisant pour se qualifier en demi-finale. Est-ce un manque de chance? Est-ce un gros coup d'arrêt? Écoutons l'un des joueurs de cet effectif, Joël Beya.
C'est vraiment une grosse déception de se faire éliminer dès les quarts de finale. Au vu des objectifs de l'équipe, c'est une grosse déception pour tout le monde. Non, ben, on est jeune. Personnellement, je viens d'arriver. Ceci ne me décourage pas totalement à 100%. On va essayer de se remettre au travail dès lundi et on verra. On continue avec la Ligue de foot, le championnat national et ensuite essayer de remporter le championnat national et on verra. On n'a pas eu de chance. On a eu quelques occasions. On a mis une dedans et l'autre n'est pas rentrée. Ben, c'est un peu ça.
Joël Beya au micro de notre correspondant Pascal Mangala. Là aussi, on pense au championnat, bien sûr. Mais c'est pour compenser, certes. Mais élimination logique ou ils ont manqué de chance?
Sur
on sait qu'ils ont manqué un pénalty.
Bah non, ils n'ont pas manqué de chance. Ils ont raté un pénalty qui aurait pu leur faire rattraper le retard du match aller. Mais pour moi, sur les deux manches, l'élimination est logique. Le Raja était supérieur dans la maîtrise, était supérieur défensivement, tactiquement sur les deux manches. Donc c'est relativement logique. Il y a pas de scandale dans cette élimination.
Pareil, Franck.
Pas mieux. Bah, le seul plaisir qu'on ait eu, c'est d'avoir vu un grand Enes Sniti qui était le gardien du Raja. C'est lui
sort
qui
sort ce penalty magistralement.
Mais pas que ça.
Ouais,
parce que 9 tentatives.
Pensons à Joseph Antoine Bell qui dit non. Il y a le joueur qui peut rater un penalty, mais il y a aussi le gardien qui l'aurait.
Sniti, qui est le gardien du Chan, la victoire du Chan 2018 pour le Maroc a été exceptionnelle. Et puis autre satisfaction dans ce match, pas pour toi, mais moi ça a été le petit Chibangu. L'auteur du seul but, il a pas 17
Chibangu,
ans.
Très
Isaac
fort.
Chibangu, c'est peut-être la suite de la relève de Jackson Muleka qui lui a 20 ans. Donc déjà ils ont le coup d'après. Et on vient d'entendre Joël Beya, donc c'est un joueur
formé localement.
Voilà,
par
la KF, à Don Bosco et qui est arrivé à Don Bosco et de Don Bosco qui vient d'être acheté. Enfin, qui a rejoint en fait la maison mère. On va appeler ça comme ça.
Comme à l'époque Ben Malongo d'ailleurs.
Voilà, donc c'est pour dire qu'eux ils ont toujours des coups d'avance. Et l'éclaboussure, c'est que le coach n'est plus sur le banc.
Oui, on va y venir juste à ça. Juste avant, je voulais savoir, on a l'impression que ce match s'est mal terminé, en tout cas dans une certaine confusion.
C'est pas que terminé, c'est mal déroulé pour le Raja. C'est-à-dire que
il y a eu un envahissement terrain. Alors vendredi, on disait que parfois ça peut être une belle chose comme ça s'est produit à Saint-Étienne quand les Stéphanois se sont qualifiés. Et en plus, il y avait une certaine un certain respect.
C'était une joie. Commune là.
Et ils sont rentrés ensuite.
Une euphorie commune. Exactement. Mais là, c'était pas le cas. Hein. C'était plus agressif.
Il y a même eu déjà une sanction de la CAF contre un des joueurs du Raja,
Alors, voilà,
Patrick.
Ilia Sadat, donc joueur néerlando-marocain du Raja, qui aurait frappé un supporter. D'après le visionnage des images, c'est le cas. Donc oui, il a été sanctionné, suspendu à titre
pour
conservatoire avant de passer en audition devant le jury de la CAF.
Mais il y a une enquête ouverte par la CAF.
Le Raja va déposer un dossier pour faire valoir ses droits, puisque bon, ils se sont qualifiés, mais ils reprochent au tout-puissant Mazembe d'avoir chauffé le vestiaire de telle manière qu'ils puissent pas y rentrer à la mi-temps. C'est-à-dire, c'était une étuve, c'était un sauna. Et c'est pour ça qu'on les a vus. Il y a eu plusieurs images qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qu'on a vu ça du coin de l'œil sur la retransmission. Les joueurs qui étaient dans le tunnel d'accès au vestiaire, pas loin du public, pendant la mi-temps. Donc, c'est pas une des conditions de préparation d'une deuxième mi-temps très sereine pour l'équipe qui visiteuse. Donc
après chaque club
chaque club a sa version. Et effectivement le TP Mazembe sur son site officiel a fait un communiqué en dénonçant des mensonges.
Ils attendent toujours la clé de leur vestiaire. Je ne sais pas
si
tu es au courant. Hein.
Absolument.
La fameuse clé du vestiaire qui aura été chauffée, ce qu'on peut imaginer, on peut très bien l'imaginer. On n'était pas dans le vestiaire, mais on peut imaginer. Cette clé n'a toujours pas été rendue.
Ces clubs venant d'Afrique, disons,
on ne sait pas ce qui s'est passé.
Quand ils vont au Maroc, il y a aussi souvent.
Oui, de toute façon,
Berkane a été longtemps, notamment un endroit craint par, je pense que ça l'est toujours d'ailleurs, par les clubs qui visitaient.
Exactement. On
en a déjà parlé.
Alors, le dossier est en cours. Quoi.
Oui, voilà, exactement. Et on y reviendra. Et sûrement que le service des sports, Thomas, suivra ça. Mais en tout cas, immédiatement, effectivement, le fait, c'est le changement d'entraîneur. Pamphile Miao remercié, on va dire, en fin de partie et déjà remplacé, parce que lui, on l'envoie pour se perfectionner en Europe.
Enfin, ça ne sera pas tout de suite. Oui. Il a le chan déjà, puisqu'il a récupéré l'équipe. C'était pas lui qui les a qualifiés, la République démocratique du Congo en l'occurrence. Mm-hmm. C'était Christian Tsengui Biambi avec Christopher Walembo, et en fait, on a mis quelqu'un d'autre à leur place pour la phase finale. Voilà, mm-hmm. Et donc Pamphile Mihayo Kazembe qui a été nommé il y a quelques semaines en arrière. Donc il va d'abord déjà préparer cette équipe pour la compétition.
Oui, je me rappelle Svetkovic, le Serbe, lui succède.
Voilà, du coup, lui succède. C'est quelque chose de bien ?
Bah, je sais pas si c'est quelque chose de bien. Moi, j'ai l'impression qu'à l'époque où il a été nommé sélectionneur pour le CHAN, c'est-à-dire c'était en février, j'ai l'impression que le TP Mazembe n'a pas très bien pris cette nomination. Et je me rappelle d'un communiqué officiel du tout-puissant Mazembe disant qu'il prenait acte de la nomination, mais un communiqué très froid qui n'était pas dans les félicitations au coach. Donc, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien pris que Mihayo accepte le poste. Et...
Enfin, il est quand même déjà dans l'encadrement. Hein.
Oui, mais là, le poste de numéro 1 qu'il aurait enlevé de facto de l'encadrement du TP Mazembe si le TP Mazembe était allé loin dans la Ligue des Champions. Je pense qu'il paye un peu ça. Il paye aussi le fait de ne pas avoir répondu sur ces deux matchs au défi tactique du Raja.
Alors,
le deuxième était plutôt bon dans le contenu, mais au final, il ne passe pas. Bah, son successeur, c'est un spécialiste de l'Afrique, mais qui a pas le lien que peut avoir un Pamphile Mihayo avec le club.
C'est sûr.
Pamphile Mihayo, c'est un joueur emblématique du TP Mazembe.
C'est un
immense joueur du club. C'est comme si Basile Boli était entraîneur de l'OM. Vous voyez, c'est un joueur emblématique. Non, mais un défenseur emblématique du club.
Enfin, Basile Boli, c'est pas un entraîneur non plus.
Non, mais jusque-là,
personne a songé à lui à Marseille.
Merci
Étienne.
C'est par rapport à l'importance du joueur dans l'histoire.
Peut-être sauver les meubles, Étienne en y viendra.
La place effectivement du joueur.
Bon, en tout cas, ce club, on peut se poser la question quand même de son avenir, parce qu'on sait qu'il y avait eu un moment délicat lorsque Moïse Katumbi n'était pas là, était en exil. Il a répondu aux questions hier de Pascal Mangala, et écoutons un extrait de cet entretien qui est passé hier soir dans Mondial Sport.
J'ai reçu tous les joueurs aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas de mérité. T'es un grand Mazembe, t'es une grande équipe. Nous devons nous préparer maintenant pour gagner le championnat national. Nous sommes en avance de 13 points, ce n'est pas beaucoup. Je félicite le joueur, je dis oublions le passé. Mazembe doit revenir encore en Champions League. Parce qu'à l'époque où j'étais en exil, le football congolais n'existait même presque plus. Il y avait des catcheurs qui étaient dans les stades à gauche, à droite. Et Mazembe a une politique, c'est de jouer chaque année la Champions League et de remporter la Champions League. Mais nous n'allons pas remporter la Champions League chaque année. Il y a parfois la chance aussi manque.
Alors, ne pas la remporter chaque année, certes, mais en regardant bien ce qu'a fait cette équipe ces derniers temps, Thomas Saint-Léger, on s'aperçoit que, bon, je ne sais pas s'il y a une régression, mais en tout cas, il y a une stagnation.
Oui, une stagnation à un niveau qui reste quand même assez élevé, on rappelle.
Mais ils nous ont habitués à mieux, ils l'ont gagné souvent, cette compétition.
Oui, alors, ils ont gagné 3 Coupes d'Afrique consécutives, donc Ligue des Champions 2015, Coupe de la Confédération, les 2 années qui ont suivi. Oui. C'est vrai que depuis, c'est un peu plus délicat, avec donc un quart de finale de Ligue des champions en 2018, une demi-finale l'année dernière, et donc il s'arrête au jeu cette année en quart de finale. Donc, stagnation, oui, mais à un niveau qui est relativement élevé, qui leur permet, à mon sens, de rester dans la cour des grandes d'Afrique. Voilà.
Franck, vous êtes, quel regard vous portez sur ce TP Mazembe éliminé à ce stade ?
Les 3 fois où ils ont été sortis, il me semble qu'en plus le match retour est à la maison. Ils n'ont pas su faire la décision à la maison, alors que c'est un endroit où ils se baladent la plupart du temps, à Kamalondo.
Dans leur beau stade.
Voilà. Honnêtement, sur le match qu'ils ont disputé contre le Raja, le match retour est de bonne facture. C'est parce qu'ils tombent sur une équipe avec un vécu tactique supérieur à ce qu'ils ont pu jouer avant, quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont fait une belle rencontre. Il suffit pas d'être bon. Il faut être exceptionnel dans ces matchs-là, et l'adversité aujourd'hui elle est exceptionnelle. On voit les qualifiés en fait, en Ligue des Champions, que ce soit l'Ouidad, que ce soit le Raja, Ahly ou Zamalek, ce sont des très très grands clubs. Il y a que des anciens vainqueurs de toute façon au stade des quarts de finale. Donc il fallait être exceptionnel, ils n'ont pas su l'être. Je pense qu'ils vont continuer de progresser, mais c'est aussi à eux de faire les bons choix. Alors dans l'encadrement, et puis aussi au niveau du recrutement. Est-ce qu'on va continuer à recruter comme ça des joueurs empilés des joueurs finalement ou faire plus confiance aux jeunes du cru, du terroir. Ça paraîtrait plus logique. On a parlé de Chibangu, mais il y en a d'autres. Jackson Muleka, etc. Glody Likonza, il y en a un paquet qui sont en équipe nationale pour les prochains matchs. C'est à eux de faire les bons choix. On va suivre ça pour les deux prochaines années.
Moi, je pense quand même Patrick. Que c'est pas une très bonne nouvelle pour Moïse Katumbi, qui était plutôt partisan d'une ligue fermée, d'une ligue africaine fermée, qui est très favorable à la...
Qui existera peut-être, hein.
Qui existera peut-être, mais lui, il est très favorable à ça. On sait qu'il fait partie de l'Organisation Mondiale des Clubs, dans le giron de la FIFA. Et il pousse pour ça. Donc, le fait que son club ne passe même pas les quarts de finale, ça plaide pas en la faveur d'une ligue fermée. Si même les très grosses cylindrées sont pas parfaitement régulières.
Est-ce une conséquence, justement, il le prononce ce mot exil quand même, Katumbi, et une ou deux fois d'ailleurs dans l'entretien. Tiens, est-ce que son absence dans ce club où il est quand même à la fois le propriétaire, le président et quelqu'un de très actif, très engagé aux côtés de ce club, est-ce que c'est un peu la résultante ?
Ça n'a pas aidé, c'est sûr. Ça n'a pas aidé. Maintenant, je pense que c'est plus un problème de staff, là. C'est plus un flottement au niveau du staff.
Est-ce que c'est dû à l'absence de
Moïse Katumbi ou est-ce que c'est dû à certaines limites des coachs qui ont été choisis? Ça, j'en sais rien. Mais c'est sûr que ça n'aide pas puisque, vous l'avez dit, c'est un président très présent, très interventionniste, un peu à l'image, pour faire une comparaison, de Jean-Michel Aulas en France. Non, mais il y a un petit peu de ça. C'est son bébé. Il fait tout dans ce club. Et le fait qu'il soit éloigné, qu'il ait dû déléguer, ça n'a pas aidé, c'est sûr.
Alors, je ne sais pas si Patrick, quand il parle de staff, il parle simplement de l'entraîneur et du staff technique. Mais c'est vrai qu'autour de ce club, cette année, il y a eu quelques remous avec des joueurs en conflit. Elia Méchak, on en parlait en antenne, qui quitte le club sur un conflit, qui rejoint une formation suisse.
Ben Malongo
également.
Ben
évidemment.
Malongo, il y a une incertitude en fait sur la date, le terme de son contrat.
Qui est au Raja, hein.
Voilà, il y a un conflit là-dessus et visiblement, bon, c'est pas tranché encore, mais la FIFA a pas donné raison à tout au TP Mazembe surtout. Donc il y a des flottements.
Flou, voilà.
Et moi, je constate quand même, enfin, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais beaucoup de joueurs ont du mal à quitter ce club et partent souvent en mauvais termes avec la direction. Et même Samata, quand il est parti en Belgique, c'était le TP Mazembe voyait pas le choix de Genk d'un très bon œil.
On y reviendra sur ces affiches des demi-finales parce qu'il y a quand même une constatation. 7 des 8 clubs sont donc ou du Maroc ou de l'Égypte. Nous aurons en demi-finale le Raja de Casablanca qualifié donc aux dépens du TP Mazembe face au Zamalek et le Wydad qui retrouvera Al Ahly. Donc là aussi, peut-être club marocain, peut-être club égyptien ou peut-être 100%...
En fait, on pourrait avoir un derby en finale.
Exactement.
Derby du Caire ou derby de Gaza.
Oui, et on
dans
suivra
certaines
ça
circonstances.
Dans Radio Foot International. On continue.
Ça fait tout le tour.
Le PSG est-il poursuivi par la malchance? Le club français qui, depuis déjà 2 saisons, vous vous en souvenez sûrement, ne parvient pas à dépasser le stade des 8e de finale de la Ligue des Champions, reçoit encore des mauvaises nouvelles à ce stade. Dernière en date, cette décision des autorités de Paris de décréter un huis clos pour le match retour PSG-BVB, c'est-à-dire Dortmund, le Borussia, programmé le 11 mars prochain, après-demain. Le nettoyage à grands coups de produits durant le week-end n'a pas fait son effet, n'aura servi à rien. Ce n'est pas le seul match d'ailleurs qui est suspendu. Hein. Il y a des matchs de Ligue 2 en France, il y a aussi le match de à huis clos et le match de rugby qui lui est reporté carrément au mois d'octobre. Écoutons la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui ce matin expliquait dans quel esprit travaillent évidemment les autorités sanitaires et c'est compliqué à jumeler avec le sport.
Comme vous le savez, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé hier de nouvelles mesures pour limiter la propagation du coronavirus dans notre pays. Parmi ces mesures, celles qui impactent le plus l'écosystème sportif est la limitation des rassemblements à 1000 personnes en milieu ouvert comme en milieu confiné. À ce stade, cette règle s'applique jusqu'au 15 avril.
Eh oui, 40 000 personnes dans le Parc des Princes, eh bien non, et ça sonnera creux. En plus, Étienne Moati, c'était pas la première mauvaise nouvelle, parce que en début de week-end et en début donc de journée de la dernière journée de Ligue 1, déjà le PSG n'a pas pu aller jouer à Strasbourg. D'ailleurs, ils sont allés jusqu'à Strasbourg. Le match a été tout simplement reporté parce qu'en Alsace, le coronavirus agit assez sévèrement. Est-ce que c'est pas une avalanche de mauvaises nouvelles pour le Paris Saint-Germain?
Oui, on peut ajouter à tout ça le fait que Kylian Mbappé ne se soit pas entraîné aujourd'hui, donc il a pris un peu froid manifestement, donc c'est
à Strasbourg.
Une mauvaise, oui, peut-être, donc dans le trajet, puisque les joueurs parisiens ont été jusque là-bas et sont revenus ensuite. Voilà, donc plus sérieusement, c'est vrai que c'est une série de mauvaises nouvelles pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, on a connu le Paris Saint-Germain avec tout pour se qualifier, gagnant 2-0 au match aller et perdant donc devant son public avec beaucoup d'ambiance dans le stade, 3-1 contre Manchester, l'équipe C de Manchester. Donc on va dire et espérer que le Paris Saint-Germain, dans des conditions extrêmement particulières, finalement ça lui convienne mieux et passe le cap des huitièmes de finale.
Le fait de ne pas avoir joué un match de championnat avant, on se souvient notamment de la méforme de Neymar, hein, qu'on a vu contre Lyon en Coupe de France, pardon. Est-ce que ça aussi, c'est pas un peu gênant pour cette équipe, c'est-à-dire de manquer de rythme?
C'est gênant pour certains, vous l'avez évoqué, pour Neymar ça l'est certainement, puisqu'il a peu joué ces derniers temps avec sa blessure, il a été sans doute trop préservé par son club, on a vu qu'il avait fait un mauvais match aller, et c'est vrai que Neymar était prévu de jouer lui à Strasbourg, et donc a besoin d'enchaîner les matchs pour être à fond, et comme le suggère Franck Simon, avec des gestes assez évoqués. Il pense que Neymar est un peu épais en ce moment et a pris un petit peu pendant.
Il n'y a pas que moi qui le pense.
Voilà, pendant son repos, c'est sans doute vrai. En tout cas, il est pas aussi affûté qu'il devrait l'être. Mais vraiment,
comment avait titré votre journal récemment? Il n'a pas le brio de Janeiro, c'est
voilà,
ça?
Voilà, je sais que Annie aime tous les titres qui ont trait à Rio et au Brésil. Pour le reste de l'équipe, on va dire que c'est pas forcément grave. Ça peut même être pour certains un atout de ne pas jouer donc un match le week-end qui précède un match de Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'on est en plein cœur de la saison, ça peut aussi éviter quelques blessures, de la fatigue, etc. Donc ce n'est pas que négatif.
Patrick Juillard, on entendait tout à l'heure cet écho, mais c'est vrai qu'on a suivi au cours du week-end, et on y reviendra demain, ces matchs en Italie qui se sont déroulés dans des stades vides. Quelles peuvent être les conséquences pour le Paris Saint-Germain? Alors Étienne nous dit, le 12e homme, finalement pour le PSG, ça ne compte pas forcément.
Mais attention, il y aura quand même sans doute des supporters aux abords du parc. Les supporters voulaient, quoi qu'il arrive, aller
autour de l'enceinte.
Aller au parc pour ce match, qu'ils puissent ou non pénétrer dans le stade. Donc il y aura quand même un peu
d'ambiance.
Un semblant d'ambiance.
Mais vous savez que le tapis rouge et tout a été supprimé justement pour pas qu'il n'y ait pas d'approximation entre des supporters.
Après, alors, ça m'a un petit peu fait sourire quand j'ai vu que les dirigeants du club désinfectaient le parc, puisqu'on sait que dans le cas d'un virus, le problème n'est pas le lieu, mais les gens qui convergent, les gens qui viennent d'un peu partout avec leurs microbes, entre guillemets, c'est eux qui peuvent propager le virus, c'est pas les sièges du parc. Mais bon,
oui, c'était une entreprise de communication du Paris Saint-Germain donner le sentiment qu'ils agissaient, ils espéraient qu'avec des signaux comme ça envoyés, on allait permettre d'accueillir leur public.
Les recommandations de l'OMS sont appliquées. Alors les gens nous disent, c'est bizarre, on ferme pas le métro, on ferme pas Disneyland, mais là, pour un match, c'est pas possible. C'est différent, on reste 2 heures au même endroit, tous ensemble, les uns à côté des autres. C'est pas comme dans un métro où on reste pas 2 heures dans le métro. Il y a des risques aussi, mais le temps d'exposition est limité. Oui, mais même le trajet dure rarement temps d'un match de foot.
Ce qu'il faut dire quand même, c'est que le Paris Saint-Germain est pénalisé par le fait de jouer ce match-là à huis clos. Il y a un autre club français qui lui a gagné 1-0 au match aller contre la Juve et qui va se déplacer donc à Turin, vraisemblablement là aussi dans un stade vide, donc avec un match joué à huis clos, ce qui sera un avantage pour Lyon, ce qui a été un désavantage pour Paris.
Mm-hmm. Franck, est-ce que ça joue contre le Paris Saint-Germain ou finalement des joueurs professionnels? On a vu hier un Juve-Inter qui s'est quand même joué. Est-ce que ça change pas diamétralement l'enjeu?
Ça change peut-être certains repères. pour quelques joueurs, pour certains joueurs, ça peut changer. Il peut y avoir un manque de repères, de pas avoir forcément les familles, les amis, tout ça, quand ils se retournent. On a vu hier les images avec Cristiano Ronaldo qui mimait une main comme ça, tendue vers des supporters invisibles. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, par exemple. Ça a pas empêché la Juve, d'ailleurs, de s'imposer contre l'Inter, en dépit d'un stade vide. C'est vrai que le football doit être joué dans, enfin.
Un spectacle. Ah,
voilà, c'est un spectacle avant tout. Ils en feront abstraction, et puis c'est, voilà, je dirais que le principal danger, ils le connaissent. Enfin, il y en a au moins deux, côté Borussia, que ça soit Sancho ou Hollande, le Norvégien. Voilà, c'est ceux-là qu'il faudra surveiller. Après, il n'y a pas de public. Je pense que ça les empêchera pas de jouer, mais c'est aussi à eux, et c'est bien que Étienne les rappelait. Dans des circonstances, on va dire, parfaites, idéales, ils ont été éliminés à la maison. Donc là, on verra, devant cette adversité, cette autre adversité, d'une certaine façon, ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont au pied du mur, bon, on va voir.
Face à Manchester et face au Real aussi, on se souvient quand il y en avait eu cet appel un peu au peuple. Ah, là,
si on commence à énumérer tous les
matchs échecs du PSG,
Paris Saint-Germain n'a pas réussi à se qualifier.
Ça va durer longtemps.
Et on va faire souffrir du monde.
Alors, on va continuer sur la Ligue.
Le centre en retrait de Bamba pour l'Ukrainien, cette fois c'est un para pour Anthony Lopez, et comme souvent contre Lyon, c'est l'Ukrainien pur produit de la formation lyonnaise qui fait la diff. 1-0 pour Lille à la demi-heure. L'égalisation amiénoise incroyable. Grosse déception pour Marseille qui avait tout pour gagner avec un score de 2-0 jusqu'à la 84e minute.
Drôle de journée de Ligue 1, préjudiciable en tout cas aux clubs olympiens. L'OL qui était sur une belle lancée, on va dire, bon, jusqu'à son élimination, mais c'était en Coupe de France face au Paris Saint-Germain sur sa pelouse. Eh bien, il se retrouve à cette heure très très loin du podium à cause, eh bien, de sa défaite à Lille hier soir. On sait que ce match était important pour les Lyonnais. Un OL méconnaissable hier, peut-être, Étienne, ou en tout cas fatigué.
Certainement fatigué, parce que l'OL...
On sait qu'il y avait une accumulation de matchs.
Et dans toutes les compétitions, donc il a quasiment sa saison qui est en train de se jouer là en 3 semaines, c'est-à-dire qu'ils se sont qualifiés en finale de la Coupe de la Ligue déjà il y a un moment. Ils sont championnats en train de ramer, donc pour essayer de rejoindre un peu le peloton de tête, en tout cas rejoindre le podium. Ils essaient aussi de se qualifier pour la finale de la Coupe de France, ils ont échoué. Et ils ont gagné le match aller de 8e de finale de Ligue des Champions, ce qu'on n'attendait pas. Mais donc la saison de Lyon, elle pourrait être extraordinaire. Mais elle pourrait aussi être dramatique.
Il pourrait tout perdre,
voilà.
C'est ça.
Il joue sur beaucoup de tableaux. On a vu que c'était quasiment la même équipe qui a enchaîné les matchs. Alors avec succès au départ, mais un peu moins maintenant. On a vu un milieu de terrain extrêmement fatigué et qui aujourd'hui conduit à ce que Lyon soit à 10 points du podium. C'est beaucoup, beaucoup, sans doute beaucoup trop. Et quand vous n'êtes pas qualifié pour la Ligue des Champions, vous avez l'économie d'un club comme Lyon, c'est compliqué.
Je suis d'accord. C'est surtout je trouve que Lyon avait trouvé un équilibre au milieu avec ce trio Guimaraes, Chaouar et Touzard. Ça marchait bien. Il y avait des vraies complémentarités. Il y avait une qualité de circulation de balle, un bon jeu de passe. Et là, on a vu Lyon, même avec ces joueurs-là qui fonctionnaient bien sur les derniers matchs, Lyon retombait dans les travers du début de saison. Il y a peut-être un problème mental en plus dans cette équipe. Je crois qu'il y a une sorte de difficulté face aux grosses cylindrées du championnat qui vient peut-être de Rudy Garcia, qui avait déjà la même difficulté avec l'OM. Même quand l'OM marchait bien sous sa direction, l'OM avait du mal à battre les entre guillemets les gros.
Théoriquement, ils avaient vaincu contre le Lyon, destin, hein. Là, en gagnant face à Turin, à la Juventus.
Oui, mais c'est la Ligue des Champions, c'est une autre compétition dans laquelle l'OL ne s'est jamais écroulé, n'a jamais fait de match catastrophique, a un vrai savoir-faire qui date pas d'hier. En championnat avec Rudy Garcia, l'enchaînement des matchs peut être plus compliqué et on l'a vu hier soir.
Franck, vous les avez vus aussi un peu à bout du rouleau, c'est
Lyonnais. Oui, au bout du rouleau, ouais, certainement de la fatigue mentale. Et puis peut-être mettre un chiffre, une statistique hein, sur ce souci face au gros du championnat, au grand du championnat. Et je crois qu'ils sont sur 6 défaites par rapport aux équipes du top 4. C'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a une incapacité en fait contre des équipes supposées égales ou supérieures. Et c'est vrai qu'il faut faire le distinguo entre des compétitions compétition de coupe, la Ligue des Champions et la Ligue 1, qui est leur pain hebdomadaire. Et c'est là aussi, on les attend. C'est là aussi, il y a eu un investissement important qui a été fait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude. Ils n'ont pas lâché leur entraîneur. Hein. C'est simplement qu'à un moment donné, voilà, tu as plus le second souffle. Et voilà, même Guimaraes qui est un garçon dont on sent qu'il peut apporter énormément. Oui.
Mais qui a été bien muselé aussi par les adversaires, il faut le souligner. Rappelons donc que Lyon est 7e avec 40 points, hein, c'est-à-dire qu'ils sont encore, pour ce qui est au moins de la 3e place, à 10 points. 10 points de Rennes, mais surtout de Lille à 9 points. Lille qu'on a vu hier plus que vaillant, Thomas de Saint-Léger, et on a vu surtout un buteur qui revient.
Oui, Papy, Loïc Rémy. Non, je l'appelle Papy parce qu'il a 33 ans. On sait que pour un footballeur, c'est plutôt...
Qu'est-ce qu'on va dire de nous?
La fin de la carrière. Pour un footballeur, j'ai dit, Étienne. C'est plutôt la fin de la carrière. Et c'est un joueur qui était un peu dans l'ombre de Victor Osimhen en début de saison. Et puis on s'aperçoit finalement quand on regarde son bilan statistique là début mars qu'il est à 14 buts quand même marqués depuis le début de saison, toutes compétitions confondues je précise, dont 8 depuis le début de l'année civile 2020, 8 en un peu plus de 2 mois. Donc c'est peut-être le joueur clé du sprint final lillois. En tout cas, c'est l'homme en forme, ça c'est sûr, de l'attaque de Christophe Galtier.
Et tellement en forme que c'est donc hier lui qui a inscrit le but et qui était l'homme du match. Écoutons-le au micro de nos confrères de Canal+.
Ouais, je m'éclate totalement, et c'est vrai que pour moi j'avais à cœur de vraiment faire partie du projet du président. Quand je suis venu ici, c'est vrai que j'ai tout de suite accroché, et puis je pense qu'aujourd'hui on est un club qui s'affirme. Lille, c'est une très bonne équipe de Ligue 1, on le montre depuis 2 ans maintenant, et voilà, comme je vous dis, on a vraiment beaucoup d'ambition, on essaye d'être performant tout simplement.
Loïc Rémy, on l'avait formé à l'OL, on l'avait vu à Marseille, et puis après, il était parti loin. Le revoilà avec un bon niveau toujours, Étienne Moati.
Oui, encore un joueur de l'année 87. Et ils sont extrêmement nombreux, on ne va pas tous les énumérer, il y en a beaucoup. Ben Arfa, Benzema, Nasri, Jérémy Ménez, etc. Tous très talentueux. Et comme beaucoup de cette génération-là, Loïc Rémy, il s'est un peu perdu. Un potentiel énorme. Quand il démarre sa carrière, Loïc Rémy, donc, on pense que ça va être des joueurs majeurs de l'équipe de France. Il a vraiment toutes les qualités techniques, il a le physique, il a la vitesse, un joueur extrêmement moderne. Et puis, pas toujours très sérieux. Une vie, parfois, qu'il a entraîné donc, à ne pas faire les entraînements comme il fallait, peut-être un changer un peu trop souvent de club, etc. Mais en tout cas, c'est un joueur avec énormément de qualité, très sympathique, que tout le monde apprécie beaucoup.
C'est une belle opportunité d'ailleurs que lui offre Lille, Patrick Juillard.
Oui, c'est une belle embellie pour sa fin de carrière en fait. Il était arrivé sur la pointe des pieds il y a 2 saisons. Et là, la première saison, c'était très difficile. C'est-à-dire qu'il traversait un peu les matchs comme une ombre. Il n'était pas dans le tempo.
Il y avait aussi d'autres ombres devant lui.
Voilà, il y avait un trio qui flambait. Et lui, il était un peu là, à côté. Et il n'arrivait pas à vraiment parler le même football qu'eux. Là, je trouve qu'il est déjà plus en forme physiquement, je pense. Il a dû mieux se préparer cet été. Et en plus, avec Osimhen, le passage en 4-4-2 de Galtier permet de créer un vrai duo offensif. Et c'est pas mal. Et pareillement que l'entrée de Sanchez plus dans un rôle axial a équilibré le milieu. Donc Lille est un peu mieux. C'est une équipe qui a une meilleure assise globale et Rémy profite de tout ça.
Franck ?
C'est bien cette complémentarité trouvée avec Victor Osimhen, le Nigérian. On l'a vu d'ailleurs sur la phase du but. Et puis au moins, Lille, si jamais Osimhen est un peu moins en forme qu'il l'a été en début de saison, Lille peut se reposer aussi sur ce joueur qui a quand même une carte d'international.
Exactement.
Jusqu'à preuve du contraire, et qui a, Étienne le rappelait, c'est un super joueur à la base. Hein. Beaucoup de talent, peut-être qu'effectivement il a pris un peu de plomb... dans la tête, hein, qui aujourd'hui.
Il en a pris ou il en a mis?
Oui, bon, certes, non, mais tout simplement de la maturité, qu'il n'avait pas auparavant et qui se traduit maintenant par des performances, de la régularité. C'est ce qu'on attend d'un footballeur et encore plus d'un attaquant. Et pour le coup, c'est l'homme en forme, ce que disait Thomas, l'homme en forme du moment.
Étienne Moati, par contre, l'équipe qui est moins en forme, c'est l'OM. L'OM qui, vendredi soir, on pourrait dire presque, s'est sabordé sur sa pelouse au Vélodrome, alors que l'équipe menait jusqu'à la 80e minute par 2-0. Eh bien, elle s'est faite remonter en plus par Amiens, désespéré, qui a tellement besoin de points. Résultat final 2-2. Est-ce que pourquoi la machine s'est-elle enrayée? Est-ce qu'il y a eu on a vu Villas-Boas s'énerver beaucoup à la fin, mais aussi les joueurs un peu nerveux. Peut-être que Villas-Boas a fait des mauvais changements au mauvais moment. Ou est-ce que c'est une équipe un peu à bout de souffle?
Ouais, je penche plutôt pour la dernière option. À bout de souffle, c'est sans doute un peu exagéré, mais en tout cas, c'est vrai que Marseille tourne avec un effectif assez réduit. Il y a 13-14 joueurs de, on va dire, de haut niveau. Derrière, c'est un peu plus faible. Donc, le turnover est plus compliqué à faire pour Villas-Boas. Donc, on va dire que la fin de la saison, ils l'attendent un peu avec impatience. Moi, j'ai l'impression que sur la lancée, ils ont quand même encore de l'avance. Bon, pour pas
être
trop
loin. 6 points d'avance toujours, hein, sur le troisième.
Oui, ça me semble pouvoir être suffisant pour Marseille pour aller au bout. Surtout qu'ils ont un entraîneur, même s'il a un petit peu pété les plombs la dernière fois, donc
c'est excusé.
Qui arrive, voilà, qui arrive. Fois. C'est très important de savoir s'excuser.
Exactement.
Qui parce arrive qu'il
veut
en règle générale.
Sanctionné ensuite, on a compris.
à relativement bien donc maîtriser son effectif, qui a la confiance de ses joueurs, qui a l'expérience internationale. Donc voilà, mais c'est sûr que ça va être compliqué parce que voilà, l'effectif est juste.
Il va pas falloir en tout cas faire une erreur. Moi, j'aimerais vous poser une question, Étienne. Ce que vous nous disiez la semaine dernière dans l'équipe, l'OM pourrait être sévèrement sanctionné pour eh bien ces problèmes de gestion du club, bien sûr, hein, un déficit important. La sanction peut aller jusqu'au fait de ne pas disputer une Coupe européenne. Mais est-ce que ça veut dire que c'est l'unique sanction ?
Non, c'est pas l'unique sanction. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'OM est déjà sous le coup de sanctions depuis plusieurs mois, parce qu'ils sont dans un accord de règlement, on appelle ça comme ça, avec le fair play financier. C'est-à-dire que c'est un certain nombre de sanctions qui sont acceptées, on va dire, de force par le club. Et à l'intérieur de ça, ils avaient des obligations qu'ils n'ont pas tenues en cours de saison, et donc elles ont été transférées vers la chambre de jugement. Celle-là, elle peut prendre des décisions draconiennes qui peuvent aller, en effet, jusqu'à l'exclusion des Coupes d'Europe. Après, on ne va pas forcément en aller jusque-là, mais en tout cas, ce qui est quasiment certain aujourd'hui, c'est que Marseille va être sanctionné d'une manière ou d'une autre, et certain aussi que Marseille va devoir dégraisser très 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 sérieusement son effectif, mais ça on le savait déjà un peu avant, pour rentrer dans les clous du fair play financier. C'est-à-dire que si Marseille va en Ligue des Champions, ce sera avec un effectif amoindri.
Est-ce que son propriétaire américain peut par exemple mettre du jour au lendemain 50 millions ou 100 millions sur la table et dire en attendant qu'on se refasse des plumes sur le terrain, moi j'aide mon club?
Non, ça c'est une possibilité que vous avez avec la DNCG au niveau français, au niveau national. L'actionnaire, le propriétaire peut remettre de l'argent en cours de saison et donc, on va dire, boucler les comptes en fin de saison. Avec l'UEFA, c'est différent. Ça doit être des recettes réelles, c'est-à-dire générées par le club. Des entrées au stade, des sponsors qui vous payent, des droits de télévision. Mais vous ne pouvez pas, en cours de route, comme ça, mettre de l'argent sur la table. Ça n'est pas accepté. C'est le problème qu'a pu avoir le Paris Saint-Germain avec l'UEFA également, qui est un actionnaire extrêmement puissant avec le Qatar. Et c'est le même problème pour Marseille.
Oui.
Souvent, les joueurs, quand il y a ce type de problème dans un club, disent publiquement, en tout cas, c'est pas vraiment notre problème, c'est aux dirigeants de s'en occuper, nous on reste concentrés sur le terrain, etc. En revanche, j'ai l'impression qu'à l'OM, les joueurs, eux, ils sont assez concernés. L'entraîneur aussi, Villas-Boas, il en a parlé, du fait de pouvoir disputer éventuellement une Ligue des Champions l'année prochaine avec un effectif amputé. Il y a Dimitri Payet qui en a parlé aussi. Donc, je me demande si ça n'a pas un effet finalement sur la motivation des joueurs dans ce sprint final.
Je pense effectivement qu'ils jouent plus sans arrière-pensée. Il y a cette épée de Damoclès du fair-play financier au-dessus d'eux. Ils se disent bon, peut-être qu'on se bat pour rien finalement. Peut-être qu'on va décrocher une qualif et ne pas pouvoir jouer. Donc ça n'aide pas, quoi.
Eh bien, nous suivrons les aventures, espérons peut-être plus rieuses pour ce qui est de Marseille. Et terminons. En musique avec un refrain. Todos te queremos. Et oui, jefe, Alejandro Valente. C'est son anniversaire aujourd'hui. Alors on lui dit bon anniversaire à Alejandro
bon
Valente.
Anniversaire, bon anniversaire.
Je crois qu'il est à peine plus vieux que Loïc Rémy.
À peine.
C'est un papy? Non.
Comme cadeau, il a eu un titre pour River Plate. Ouais. Ah non, je me trompe,
non,
pardon.
C'était pour Boca Juniors, justement. Bah,
et le Barça est repassé en tête en Liga. Alors il doit être
ça
plus heureux
mieux,
des hommes.
Ça va mieux, voilà.
Merci à tous. Merci à Laurent Salerno et à Pierre Guérin.
7 milliards de voisins.